Salut, moi c'est Justine.
Et moi c'est Christine.
Et vous écoutez Crime Glacé.
Bonjour.
Coucou, comment ça trouve?
Après si longtemps, on est rouillés. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert nos micros, notre console, puis qu'on a dit salut.
Oui, pour vrai, là, c'était weird. Je me rappelais plus comment faire.
Ben là, bonjour. Mon Dieu, on dirait qu'on a passé tout l'été, mais l'été n'est pas encore fini.
Non, fait il nous reste... Il y a la moitié du mois d'août, là.
Oui, c'est pas rien. C'est le mois de nos fêtes, en plus. Fait oui. Que c'est pas rien. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. Nous, on s'est énormément reposés, on s'est fait bronzer, on est allé se baigner. Écoute, on a passé un beau voyage.
Oui, vraiment, c'était vraiment le fun. Puis là, on est prête à repartir. Ça va être une grosse deuxième moitié d'année, on vous le dit tout de suite. On a des très bons épisodes qui s'en viennent et plein de belles choses, des belles surprises, des belles nouvelles. On peut en dévoiler une parce que...
Oui.
Au moment où on se parle, vous le savez probablement, mais on va participer au Festipod!
J'ai fait un cri de mort, excuse-moi.
Oui, Festival de podcast à Montréal! Yes, on va passer le 6 octobre.
C'est pas le 4?
Le... Oh,
oh non!
Je vais aller vérifier.
Je m'étais noté le 4.
C'est le 4.
Ouais! Mais oui, on va passer le 4 octobre. On ne sait pas encore l'heure, là. Écoute, on va tout vous dire ça. Il va y avoir des informations et tout. Si jamais vous êtes dans, on va avoir même un petit rabais pour les gens qui veulent s'acheter des billets pour le Festipod. Puis si jamais vous n'avez pas la chance de venir participer à l'édition de cette année, venir nous écouter et tout, écoutez, il va y avoir plein d'autres occasions qui s'en viennent où est-ce que vous allez pouvoir
nous voir. Parce que oui, on peut pas le dire tout de suite, mais si vous pouvez pas assister au Festipod à notre enregistrement live, ben peut-être qu'il va en avoir d'autres.
Peut-être.
Mais si vous voulez, on vous encourage vraiment à venir nous voir. Ça va être notre premier. Oui. On est stressés, on fait pas, on n'est pas youtubeuses, hein, on est podcasteuses pour une raison. D'habitude, on veut pas montrer nos faces.
Ouais.
Fait que ça va être spécial, mais on espère pouvoir vous rencontrer en même temps. Puis on veut que ça soit une belle expérience avec vous autres. Fait que venez nous encourager pour pas qu'on parle à une pièce vide. Ça serait,
ça serait lourd. Mais en même temps, je pense que j'ai justement plus hâte de jaser aux gens puis de comme juste chiller que d'être comme, je sais pas...
Ça scène
en train de, genre, stressant à mort. Mais en tout cas, dites-nous aussi, genre, écrivez-nous si vous comptez y aller, là, si vous comptiez déjà y aller avant qu'on vous annonce qu'on y était, qu'on faisait partie de... En tout cas. Bref.
On espère vous y voir 4 octobre et restez à l'affût sur les réseaux sociaux. On va tout partager les infos pour les billets, puis l'horaire, puis tout, puis tout.
Oui, puis on vous revient avec d'autres belles grandes nouvelles.
Yes!
Mais pas aujourd'hui. OK.
Là, c'est un retour de vacances chargé. On a plein de choses à vous dire avant de commencer. Là. Avant de passer au shout-out, j'en fais un. Ben, on en fait un, moi, puis cri à Alexandre. Je ne sais pas si on va l'avoir publié déjà sur nos réseaux sociaux, mais une amie à nous, photographe, a pris des full belles photos de nous professionnels.
Oui.
On était dus, là, parce qu'on n'avait pas grand-chose à vous montrer. Puis, pour vrai, on veut vous la recommander. Parce qu'elle a fait un full beau travail. Alexandre Brisson, qu'elle s'appelle. Elle a une page Instagram si vous voulez faire affaire avec elle et ses services. Je vais vous dire son compte, c'est Alexandre EB sur Instagram. Allez la follow. Elle fait autant de l'événementiel que des photos plus privées, intimes. Elle fait beaucoup de spectacles, des mariages aussi, puis elle s'adapte à vos besoins, puis... Pour vrai, c'était une belle expérience. On est full gênés, fait que on n'était pas à l'aise.
Je déteste me faire prendre en photo. Genre, c'est une de mes pires choses. Genre, je déteste ça. Puis pour vrai, j'étais à l'aise. Genre, moi, je la connaissais moins, Alexandre, là, mais elle m'a full mis à l'aise. Genre, c'était relax. En tout cas, j'ai vraiment apprécié mon expérience.
Oui, on vous la recommande. Donc, Alexandre Brisson, C'est la best. Merci à elle de nous avoir pris en photo.
Merci, full.
OK, donc, Cri-Cri, veux-tu nous lire le shout-out du jour?
Oui, bien sûr, bien sûr. Hello, elle nous dit « Bonjour Justine, bonjour Christine, moi c'est Kemanita, Kem de mon petit nom. Je vous écris pour vous dire que votre renommée internationale s'en va jusqu'en Asie, au Cambodge exactement, où je vous écoute. Ben, voyons donc.
What?
Je vous ai découverte il y a pas tout à fait 2 mois encore et j'ai déjà écouté tous vos épisodes. Je suis fan. » Là, on s'entend, ça fait un petit moment là, déjà là, qu'elle nous a écrit parce que on n'arrive pas à...
Au bout de notre liste de chansons.
Oui, c'est ça. On n'a pas pu toutes les dire. Bref, alors oui, votre accent québécois ne me laisse pas indifférente. Je suis française et j'adore. Mais c'est aussi parce que j'ai l'impression qu'on grandit avec vous et ce podcast. Depuis les débuts avec vos questionnements sur le fait de donner une saveur à votre épisode, du petit nom qu'on aurait, de la longueur des épisodes, des tests de micro, du montage, des rires, des partages. On dirait qu'on écoute le vocal d'une copine qui est loin.
Oh!
Donc, bref, elle veut faire un shout-out à Rose, sa collègue, puis elle veut, dans le fond, ensemble, si je comprends bien son message, ils ont découvert comme leur petit penchant pour le Canada, puis c'est elle qui lui a fait découvrir notre podcast, si j'ai bien compris. Donc, elle veut lui faire un petit coucou, un petit merci, puis voilà, elle dit qu'elle nous aime, puis qu'elle nous souhaite une bonne continuation. Ben merci full Kem, Kemanita. C'est vraiment un beau nom.
Ouais, j'avais jamais entendu
moi
ça.
Moi non plus, en plus, genre avec un KH, genre, en tout cas, bref. Il est funky. J'aime ton nom. Ça fait super longtemps, j'espère que tu nous écoutes encore, mais merci beaucoup.
Oui, salut, salut à toi et à ton amie Rose.
Oui, salut les filles.
Oui.
C'est tout!
OK, longue intro, désolée. Pour les petits nouveaux, là, on sent pas tout le temps aussi longues nos intros. C'est long quand on a pris une pause, là, puis c'est un grand retour. Là.
Mm-hmm.
Mais là, on est prêt à commencer l'épisode?
Oui!
Là, c'est un épisode en 2 parties, comme vous avez vu dans le titre. Et on essaie quelque chose de nouveau. La 2e partie, au lieu d'être publiée dimanche prochain... sur Patreon, elle va être tout de suite disponible aussi. Fait que si vous voulez binge écouter, les 2 parties vont être déjà sur Patreon. Donc, pour les cornets, 1 boule et 2 boules.
Wow! Je savais même pas que tu prévoyais faire ça. C'est bien cool!
Surprise!
Surprise!
et sinon, ben ça sera dimanche prochain. Là,
oui.
C'est juste une semaine. C'est pas si pire.
Non, c'est pas si pire.
Allons-y. On est le 7 octobre 1965 à 6h du matin dans la ville de Hyde, dans le Grand Manchester, au Royaume-Uni. Un jeune homme d'environ 18 ans prend nerveusement un couteau et un tournevis retrouvé chez lui, puis les met dans sa poche. Avec sa femme à ses côtés, il sort de son appart et les deux marchent le plus vite possible dans la rue. Regardant sans cesse autour d'eux, les deux jeunes adultes s'empressent de se rendre à la cabine téléphonique la plus proche. Ils en aperçoivent enfin une sur Hare Hill Road après environ 5 minutes de marche. Le jeune homme compose le 999 et contacte les urgences à 6h07. À l'autre bout du fil, on lui demande la raison de son appel et l'homme supplie d'envoyer des policiers chez lui et qu'il va tout leur expliquer une fois sur place. L'opérateur accepte et envoie une patrouille à leur adresse. En attendant, le couple se cache derrière une clôture, craignant de se faire apercevoir. Quelques minutes plus tard, l'homme rappelle les urgences pour s'assurer qu'une patrouille a bien été envoyée et on lui confirme que oui. Après enfin des minutes qui leur a semblé une éternité, une voiture de police arrive sur les lieux. Le couple sort de sa cachette et se jette sur les policiers en panique. Ils essaient d'ouvrir la porte de leur appart, mais ils sont partis trop vite et se sont embarrés de l'extérieur. Le policier tente de les calmer. C'est la panique, ça va pas du tout. Il saisit le couteau et le tournevis que l'homme avait pris soin de cacher dans sa poche, puis on les emmène au poste de police de Hyde. À la station, on leur offre du thé, on leur demande de s'expliquer plus calmement. Mais l'homme est paralysé. Il est incapable de dire quoi que ce soit. 2 mots réussissent enfin à sortir de sa bouche. Un meurtre. Ce matin-là, les policiers de Hyde ne s'attendaient pas à mettre la main sur 2 des pires criminels que l'histoire britannique ait connus. Parce que oui, aujourd'hui, je vous raconte l'une des affaires les plus sordides et choquantes que j'ai eu à couvrir ici sur le podcast. Oh, Ça s'appelle les Moore's Murders, en français, les meurtres des Landes.
Wow, je pensais pas que c'était possible qu'on n'avait pas encore couvert quelque chose d'autant pire.
Ben, moi, en tout cas, okay. Je trouve que c'est dans mes pires cas.
Shit.
Je vais faire des trigger warnings bientôt, là, mais pour vrai, ça sera pas facile à entendre, je vous le préviens. Les auteurs de ces crimes horribles sont un couple, Ian Brady et Myra Hindley, qui ont semé la terreur à Manchester dans les années 1960. Ce duo diabolique a marqué les esprits, non seulement par la cruauté de leurs actes, mais aussi par la complicité froide et calculée qui les unissait. Disons que Ian et Myra y ont marché pour que Fred et Rose West courent.
Okay.
C'est l'expression, là?
Mm-hmm.
Ça s'est passé un peu avant Fred et Rose West, puis il y a beaucoup de similitudes.
Oui, c'est ça que je calculais, là. J'étais comme, mon Dieu, ça se ressemble.
Puis British, en plus.
Ben oui, c'est ça.
Dans le même coin. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en Angleterre, là. Tu sais, des fois, on dit que le true crime, les tueurs en série, c'est aux États-Unis, mais en Angleterre, il y a du monde un petit peu dégueulasse aussi.
Des couples, on dirait.
Ouais, hein? On soulève la question souvent quand on parle de couple meurtrier. Comment deux monstres réussissent-ils à se rencontrer et comment peuvent-ils commettre l'impensable ensemble? Comme deux écueils dans une botte de foin, les monstres semblent tragiquement et mystérieusement toujours réussir à se repérer et s'entraîner dans l'horreur. Bien qu'en termes de nombre de victimes, Ian Brady et Myra Hindley soient loin d'avoir été aussi prolifiques que les West, par exemple, les détails de la brutalité et de la perversion de leurs crimes contre des enfants ont marqué les esprits au Royaume-Uni et même partout dans le monde. Myra a particulièrement attiré l'attention des journaux, en partie à cause de sa célèbre mugshot, que je mettrai sur Instagram, où elle fixe l'objectif d'un regard perçant, et en partie à cause de l'incompréhension générale quant au fait qu'une femme puisse être complice d'agressions sexuelles et de meurtres d'enfants. Son histoire lui a valu le titre de « Most Evil Woman in Britain », donc « Femme la plus diabolique de Grande-Bretagne ». Comme avertissement, je vais parler de meurtre, d'agression sexuelle, de pédocriminalité et de torture d'enfants. J'ai beaucoup de détails, c'est graphique, c'est dégueulasse. Installez-vous bien, ça va être long et j'ai divisé mon histoire en chapitres comme vous l'aimez bien.
Oui, ça aide full à comprendre, je trouve.
Puis là, j'ai 56 pages, fait que... Ouais. Et j'ai coupé beaucoup d'affaires.
Oh my God!
Commençons par parler de nos deux antagonistes de l'histoire. Chapitre 1. Ian Brady. Ian Brady a énormément de défauts, évidemment. C'est un des pires tueurs en série détraqués que l'histoire ait connu. Mais on peut aussi lui reprocher d'être pas fiable. Donc, quand on parle de son passé, de son enfance, on doit pas trop s'y fier... Pas trop prendre tout ça pour du cash parce qu'on n'a pas vraiment d'informations concrètes, non biaisées sur son passé. C'est plus lui qui l'a raconté. Et il aime ça s'entendre parler, il aime ça romancer, aggraver des situations et tout. Il y a eu des livres et des livres et des documentaires sur lui, mais est-ce qu'on peut réellement se fier à ses témoignages quand il parle de son enfance? Difficile à dire. Donc, je vous invite à prendre le tout avec un grain de sel. Et j'ai essayé de garder seulement l'essentiel de son histoire. Ce qu'on sait, c'est qu'il est né en tant que Ian Duncan Stewart à Glasgow, en Écosse, le 2 janvier 1938, de sa mère monoparentale Maggie Stewart. Personne ne sait qui est le père de Ian. Maggie dit que c'est un journaliste puis qu'il est mort 3 mois avant la naissance du petit. Mais d'autres disent qu'il a fui Maggie pour aller refaire sa vie en Australie. Qui sait? Maggie, nouvelle maman seule, en pleine guerre, travaille comme serveuse et peut pas se permettre une gardienne. Donc, elle laisse son petit bébé seul à la maison, souvent sur de longues périodes de temps. Mais... ça prend pas trop de temps qu'elle réalise qu'elle est incapable de subvenir à ses besoins et elle finit par être un peu forcée de, pas s'en débarrasser, mais de le donner en adoption quand Ian a seulement 3 ou 4 mois. Mais c'est un peu fait de manière non officielle. Elle veut le faire à un couple qu'elle connaît bien, Mary et John Sloan. C'est une famille du coin qui avait déjà 4 enfants. C'est une famille très pauvre, mais ils ont tellement un grand cœur que se sont dit « un enfant de plus ou de moins, ça ne nous dérange pas, on va prendre soin de lui comme on prend soin de nos 4 autres enfants. » C'est une famille respectée par la communauté qui veut toujours aider son prochain. Ian Stewart est donc devenu Ian Sloan. Les Sloan ont vraiment tout donné pour essayer d'aider Ian et lui donner tout l'amour dont il avait besoin. Mais Ian, c'est un enfant difficile, solitaire, qui fait beaucoup de crises. Et Maggie, elle n'a pas abandonné son fils pour autant, même s'il habite chez les Sloan, elle continue de le visiter souvent durant son enfance, sans jamais lui avouer qu'elle est sa mère biologique. Elle lui dit qu'elle s'appelle Peggy. Mais éventuellement, quand il est assez vieux, elle veut lui annoncer qu'elle est sa mère biologique, autour de l'âge de 12 ans. Et simultanément, Maggie slash Peggy a rencontré un nouvel homme qui s'appelle Patrick. Elle est en amour et tout, donc elle commence de moins en moins à visiter son fils pour finalement déménager avec son amoureux à Manchester, au Royaume-Uni. Donc, elle laisse Ian en Écosse. Ça peut être super facile à Ian d'apprendre de un que la madame gentille qui le visitait souvent, finalement, c'est sa mère, puis tout de suite après, elle arrête de le visiter. C'est un peu bizarre.
Ouais, c'est comme plein de traumas d'abandon un après l'autre là, qui vit.
Vraiment. Petit, Ian démontre très peu d'intérêt au jeu de son âge. Il flâne seul, ennuyé dans la cour d'école, toute l'emmerde. Il est très bon académiquement, il reçoit plein de mentions d'honneur pour ses notes à l'école. Plusieurs rapportent qu'il traînait toujours un flick knife sur lui, donc les petits couteaux qui sortent automatiquement, et que dès un très jeune âge, il y avait des comportements violents. Ian se rappelle qu'au service du dimanche, Sunday service à l'église, là, leur animatrice de pastorale avait demandé aux enfants si Dieu existait, et il a été le seul à dire nerveusement que non. Il croyait en rien. Ian a admis plus tard avoir pratiqué de la cruauté animale dans sa jeunesse. Mais il veut rétracter ses aveux-là après. Mais ça serait pas tiré par les cheveux. On a déjà entendu ça que des tueurs en série ont fait du mal aux animaux. Mais je vais y revenir plus tard. Mais autant lui que Myra, étrangement, ils adoraient les animaux plus que les humains et étaient outrés par la maltraitance animale.
Ouais, fait que ça se peut qu'il ait juste dit ça pour genre « be part of the gang ». Genre les tueurs en série, ils ont tous fait ça dans leur enfance avec lui aussi, mais ça veut pas dire que c'est vrai.
C'est ça, je pense qu'il a réalisé « Oh merde, en fait, moi, ce qui me rendait spécial, c'est que j'aimais les animaux. Oui, never mind!
» Oubliez tout ce que j'ai dit.
Vous voyez, il est pas fiable.
Oui.
Ian, il avait très peu d'amis, il s'isolait et il a développé très tôt une fascination pour le nazisme.
Bon.
Ainsi que les romans d'horreur et de gangsters et de true crime. Pour ceux qui ont écouté l'épisode Patreon sur Graham Young, c'est la même affaire. Quand les enfants jouent à la guerre, Ian insiste toujours pour incarner un soldat allemand. Il va éventuellement avoir une première petite amie à l'adolescence qui s'appelle Evelyn Grant, mais leur relation ne va pas durer longtemps parce qu'il le menaçait avec un couteau après qu'elle soit allée à une danse avec un autre gars. Super.
Ça part vraiment pas bien.
Ouais. En 1947, alors que Ian avait 9 ans, les Sloan sont allés pique-niquer avec lui à Loch Lomond. C'est comme en forêt, là, des plaines, des paysages. Ian va rapporter plus tard que c'était la première fois qu'il sortait de la ville, des ruelles un peu pauvres, et qu'il voyait la mer, les montagnes, les étendues de forêt à perte de vue. Il a été captivé, fasciné par ces paysages-là. Il dit, et je cite, face à la mer, à une lande ou debout sur une montagne, vous pouvez presque entendre des présences inconnues et invisibles. Vous savez qu'elles sont là, presque à portée de main, parlant une langue archaïque, et vous sentez la puissance monter en vous. Vous ressentez une vague d'énergie et de puissance ultime qui vous font rire de joie pure ou pleurer de gratitude. Vous voyez le genre de quote que Ian disait, là? Il aime bien avoir l'air d'un grand poète. Mais sa fascination pour les paysages va revenir plus tard.
OK.
Ce jour-là, quand les Sloan étaient prêts à partir puis retourner à la maison, ils ont vu Ian debout au loin sur une colline en train de fixer l'horizon, complètement émerveillé, hypnotisé. Il bougeait pas de là. À retenir. Ian grandit pour devenir un jeune adolescent tourmenté, sans grande surprise. Il est troublé et éventuellement frustré d'apprendre que c'est un enfant issu d'une union illégitime, que sa mère l'a abandonné, patati patata. Il va rapidement tomber dans le monde du crime et devenir un jeune délinquant. À seulement 13 ans, il rejoint une petite gang de rue et en 1951, il est placé en probation devant la cour juvénile après une accusation d'entrée par effraction. Même s'il est placé en probation et tout, là, ça prend pas trop de temps qu'il retourne dans le milieu du crime. Dès l'âge de 16 ans, Ian accumule les charges pour des crimes comme des cambriolages, entrée par effraction, vandalisme, etc. En décembre 1954, pour lui éviter une sentence de détention juvénile, un juge décide de l'envoyer vivre avec sa mère biologique et son beau-père Patrick à Manchester. On pense que de retourner vivre avec sa mère va peut-être le ramener sur le droit chemin et il va quitter l'Écosse, quitter ses petites gangs de rue, ses mauvaises fréquentations. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée, puis je trouve ça bien pour un juge de l'époque d'avoir essayé d'aider un enfant au lieu de tout de suite le mettre en prison, tu sais, de lui donner une chance. Et c'est ce qu'il va faire. Ian quitte l'Écosse pour l'Angleterre. Et au départ, Ian essaie vraiment de créer un sentiment d'appartenance avec sa nouvelle famille, entre guillemets, qui est finalement sa mère biologique. Il prend même le nom de famille de son beau-père, d'où vient son nom Ian Brady, parce que son beau-père, c'est Patrick Brady. Il s'entend très bien avec Patrick. Les deux ont une passion commune pour la course de chevaux et les paris sportifs. Mais malgré ses bonnes intentions, un an plus tard, en 1956, Ian commet un autre cambriolage et on cesse de lui donner des chances. À 17 ans, il reçoit une peine de 2 ans de prison pour cambriolage et il est détenu dans un Borstal Training, donc une sorte de détention juvénile, et son séjour là-bas va vraiment l'endurcir, mais dans le mauvais sens du terme, disons que il veut vraiment s'attacher au milieu du crime. Il est libéré le 14 novembre 57 à 19 ans. Et durant son séjour en détention, il va beaucoup fantasmer sur le monde du crime et il s'est fait plusieurs connexions avec des gangs de rue et des criminels. Mais ça restait des fantaisies dans sa tête. Il parlait peut-être de gangs de rue, il pensait à faire d'autres cambriolages, mais aller plus loin, ça restait plus des fantaisies dans sa tête. À nouveau libre, Ian reste un garçon solitaire, silencieux, puis d'un œil extérieur, pour le peu de gens qui faisaient partie de son entourage, il avait l'air d'être sur la bonne voie, d'avoir repris sa vie en main. Mais sa fascination pour la violence va faire que grandir en lui, et des fantasmes de plus en plus perturbants et sadiques vont naître dans son esprit. C'est pas parce qu'il parle pas qu'il est tranquille. Il habite proche d'une bibliothèque et il commence de plus en plus à s'intéresser à la littérature. Il est souvent vu en train de lire le Mein Kampf, donc le guide nazi d'Hitler, ou autres livres sur le nazisme. Il lit aussi beaucoup le travail du Marquis de Sade. Je ne sais pas si tu sais c'est qui. J'avais un peu de nom, là, mais pour vous lire rapidement, là, c'est un homme de lettres qui est précurseur du travail de Nietzsche, Freud, le totalitarisme, l'anarchisme, etc. Il a écrit, entre autres, 120 jours de Sodome, qui décrit graphiquement des actes de sexe, viol, torture, meurtre, pédophilie, etc.
OK. je vois le genre.
Et le mot sadisme est d'ailleurs à l'origine d'un de ses personnages, qui recevait du plaisir en faisant souffrir les autres.
OK.
C'est pas une superbe lecture.
Non. C'est pas une lecture d'été.
Éventuellement, Ian se trouve une job comme commis dans une entreprise de distribution de produits chimiques nommée Millward's Merchandise. Quelque temps plus tard, quand il a 23 ans, Ian fait la rencontre d'une secrétaire à son travail nommée Myra Hindley, qui, elle, a 19 ans. C'est seulement après sa rencontre avec cette jeune femme que Ian veut commencer à vouloir transformer ses rêves en réalité. Chapitre 2. Myra Hindley. Myra Hindley est aussi une des pires criminelles que l'histoire ait connues, et elle est aussi très peu fiable. Fait qu'encore une fois, quand on parle de son passé, apprendre avec un grain de sel et les détails changent souvent, elle se contredit, elle dit des choses différentes chaque fois. Fait que, tu sais, on prend pas ça pour du cash. Et ce qui est frustrant et qui a fait en sorte, je crois, qu'il y a beaucoup plus de haine dirigée envers elle qu'envers Ian, c'est qu'elle va toujours essayer de s'innocenter de minimiser son implication dans ses crimes et de se victimiser en parlant de son passé notamment, comme étant une pauvre martyre qui n'a jamais rien voulu de tout ça. Donc, elle exagère peut-être la lourdeur de son passé aussi.
OK.
Myra est née le 23 juillet 1942 à Crumsall, au Royaume-Uni, de ses parents Nelly et Bob Hindley. Sa famille est très pauvre et après la naissance de sa petite sœur Maureen en 1946, Myra est envoyée vivre avec sa grand-mère Ellen Maybury, qui habitait dans une rue avoisinante. Elle avait juste 5 ans, mais Myra voyait ses parents tous les jours pareil. Là. Sa grand-mère habitait en face, là. C'est juste que ses parents avaient de la misère à se venir à 2 enfants. Par exemple, elle retournait à la maison de ses parents chaque soir souper avec eux. Elle devient très, très proche de sa petite sœur Maureen et de sa grand-mère. Les deux, elle et Maureen, là, se ressemblent beaucoup. Et rappelez-vous d'elle, elle va revenir dans l'histoire plus tard, Maureen Hindley. Bob, son père, c'est un vétéran de l'armée qui a servi durant la Deuxième Guerre mondiale. Il est rigide, froid et il élève ses filles de cette façon. Après la guerre, il veut perdre son emploi suite à une bataille de rue. Une street fight qu'il a eu pour de l'argent, il va commencer à boiter d'une jambe. Et cette accumulation-là d'échecs un peu ou de misère va conduire Bob à un mode de vie d'ivrogne qui passe le plus clair de son temps à refouler ou défouler ses traumas d'après-guerre dans les pubs et dans l'alcool. Le père de Myra, il est pas super, là. Il l'a introduit très tôt à la violence en la faisant regarder quand il battait sa mère. Il l'encourage aussi à répliquer si Myra se fait intimider et pas répliquer par les mots.
Okay.
Myra dit qu'à l'âge de 8 ans, un petit gars l'a griffé sur la joue au point qu'elle saignait. Et la petite est partie en larmes voir son père et au lieu de la consoler, il l'aurait menacée de la fouetter si elle ne ripostait pas. Myra a retrouvé le garçon en question et l'a assommé d'une série de coups de poing. Son père le récompensait en lui disant « Je suis fière de toi ».
Ouais.
Trauma!
Oui.
Myra dit plus tard, en parlant de cette histoire, « À 8 ans, j'ai remporté ma première victoire. » On dit que son père l'a tellement habitué à la violence que ça l'a affecté sa manière de penser et de voir le monde. La violence était, oui, présente dans sa maison, mais elle était aussi récompensée en dehors des murs de la maison. Mais malgré ça, Myra vivait quand même une vie heureuse chez sa grand-mère Ellen. Chez elle, il n'y avait pas de violence, puis elle était même un petit bébé gâté. La petite fille à sa grand-maman bonbon, disons. À l'école, sa matière favorite, c'est l'anglais. Elle est douée en littérature et en poésie. Un de ses essais a eu tellement de succès qu'il a été placé à la bibliothèque de son école. Myra est connue comme une ado intelligente, mais au gros caractère qui fait un peu peur. En juin 57, quand elle a 15 ans, un très bon ami à elle, le petit Michael Higgins, est mort noyé alors qu'il nageait dans un réservoir d'eau abandonné. Et Myra s'en veut beaucoup de ne pas avoir pu le secourir et elle veut toujours être hantée par la mort de cet ami-là. Je ne sais pas si ça l'a influencé ou non cette décision-là, mais un an plus tard, elle veut se convertir au catholicisme romain et passer beaucoup de temps dans la religion. Malgré ça, elle va rester une jeune femme connue comme ayant un tempérament un peu instable et désagréable. Dans ses cours d'arts martiaux, on raconte que personne ne voulait se mettre contre elle parce qu'elle ne lâchait jamais prise. T'sais, mettons, tu tapes sur le tapis pour dire « lâche », elle a continué, là. C'est bizarre! Mais on dit d'elle qu'elle était aussi étrangement une très bonne gardienne, exceptionnelle avec les enfants. Et c'est écœurant quand on sait les crimes qu'elle va commettre.
Non.
Myra date des garçons par-ci par-là, mais elle reste très croyante et pratiquante, et contre le sexe avant le mariage et tout. À la fin de 1958, elle débute éventuellement une relation sérieuse avec un garçon nommé Ronnie. 2 ans plus tard, à son 18e anniversaire, en 1960, son petit ami Ronnie la demande en mariage. Puis au début, elle est contente, elle est super heureuse, mais ensuite, elle veut commencer à réfléchir et son enthousiasme va vite s'éteindre parce qu'elle regarde sa mère Nelly, qui est femme au foyer, soumise à son père ivrogne, violent. Elle fait toutes les tâches ménagères sans dire un mot, puis elle la trouve pathétique. C'est triste, là. a dit qu'elle voudrait que sa mère se tienne debout et confronte son père, mais elle reste docile et a ses yeux faibles. Et ça fait peur à Myra. Elle veut pas finir comme sa mère. Elle veut surtout profiter de sa jeunesse aussi. Elle commence aussi à trouver Ronnie ennuyant. Elle réalise que la plupart des femmes sont sous l'emprise de leur mari et qu'elle, elle veut la liberté. Elle veut se rebeller, vivre des choses, sortir de la classe ouvrière, cesser d'être pauvre et devenir wild. Et là, elle va finir par quitter son fiancé. À 18 ans toujours, Myra va être engagée comme secrétaire au Millward's Merchandise. À son premier jour de travail, Myra est présentée à son boss, un certain Tom, et ce dernier partage un bureau avec deux autres hommes. Un des deux est plus âgé, gentil, il se présente poliment à Myra. L'autre est plus jeune, mystérieux, et lui montre très peu d'intérêt. Son nom, Ian Brady. Elle va tomber immédiatement sous son charme et les deux deviendront éventuellement des tueurs en série.
Quelle belle rencontre.
Mm-hmm.
Le début d'une histoire d'amour.
Chapitre 3. Le couple. Myra dit qu'elle est tombée amoureuse d'Ian le jour qu'elle l'a rencontré au bureau. Mais de son côté, Ian, là, il s'en foutait bien raide d'elle au début. Il la repousse, il s'y est pas du tout intéressé puis il remarque même pas sa présence. Et c'est pas super gentil, là, mais je me sens pas mal de dire ça parce qu'on sait tout ce qu'elle a fait, là, mais elle est pas super jolie non plus, là, fait que ça me surprend pas qu'elle ait pas marqué l'esprit de Ian tout de suite. Myra veut écrire à propos de lui dans son journal intime pendant environ un an avant qu'Ian lui montre enfin un peu d'intérêt en retour. Elle le compare à James Dean ou Elvis. Elle est complètement obsédée par lui et je comprends pas pourquoi. Il est quand même bien ordinaire, mais tu sais, le gars ténébreux, mystérieux, mm-hmm. qui te rejette, on dirait que des fois, tu as juste envie qu'il t'aime, là, fait que tu deviens fixé dessus, là, en tout cas.
Les goûts sont dans la nature aussi.
C'est vrai, il y a des goûts pour tout le monde.
Ouais.
Myra note chaque fois qu'il se croise, s'il la regarde, s'il l'ignore, s'il lui dit salut, et comment elle se sent par rapport à tout ça, etc., dans son journal intime. Elle écrit qu'elle adore les cheveux foncés d'Ian, ses yeux d'un bleu profond, son teint frais et ses ongles parfaitement manucurés. Puis elle, selon elle, ça contraste fortement avec ceux de son ex Ronnie qui avait toujours les ongles sales, graisseux à cause de son travail. Puis elle associe la saleté à la pauvreté, puis elle, elle méprise beaucoup cette mm-hmm. classe sociale-là. Quand on dit que l'amour rend aveugle, eh bien Myra l'était. Parce que pour les autres, Ian était un gars étrange, marginal et colérique, qui piquait des crises s'il perdait aux cartes ou s'il perdait un pari sportif. Myra, elle, le voit plutôt comme un gars ténébreux, mystérieux et incompris. Pendant près d'un an, Ian n'a pas prêté attention à Myra comme elle l'aurait souhaité. Elle va dire plus tard, « Ce fut une année de torture émotionnelle comme je n'en avais jamais connue avant. Je suis passée de l'amour à la haine, à l'amour à la haine, ainsi de suite. Quand il me souriait ou était gentil avec moi, je me sentais comblée et j'avais l'impression de flotter dans les airs. Ian était plus âgé et semblait plus sage que moi, tellement cultivé, tellement passionnant et différent des autres. » C'est toxique! Elle veut dire aussi qu'elle a trouvé certaines similitudes entre Ian et son père, Bob, affirmant qu'ils avaient tous les deux une personnalité forte et dominante et que comme son père l'avait ignoré toute son enfance, elle n'allait pas laisser Ian faire la même chose avec elle.
Mm-hmm.
Ça sonne comme de graves daddy issues.
Oui.
Elle est dans une mission pour le conquérir. Elle flâne devant chez lui en espérant le croiser. Elle traîne au pub du coin pour espérer le voir, mais rien fonctionne. Mais un jour, sur son heure de lunch, Myra lit un livre dans la salle des employés et Ian s'arrête pour lui demander comment elle trouve sa lecture. Et là, my God! Il veut savoir si elle trouve ça bon. Ian y prend son livre, il feuillette et manifeste son intérêt de le lire aussi ensuite.
C'est quoi le livre? On sait-tu?
Celui-là, je sais pas, mais deux secondes, là.
Mm-hmm.
Myra capote. Et elle saisit sa chance. Elle se dit « Ok, c'est comme ça que je vais attirer son attention. » Donc là, elle va commencer à toujours lire dans la salle des employés. Et quelques jours plus tard, elle lit un autre livre qui s'appelle « Songs of Innocence and Experience » de William Blake. Encore une fois, Ian remarque la lecture de Myra et partage même son intérêt pour cet auteur qu'il connaît bien. J'imagine vraiment Myra genre faire à semblant de lire les petites jambes croisées avec comme un petit éventail là, toute en train de poser. On arrive au party de Noël du bureau. Myra discute avec quelques collègues et à un moment donné, Ian, très saoul, va la voir pour lui demander une danse. Myra est aux anges. Est obnubilée par lui au point de s'en foutre de la maladresse de Ian qui sait pas du tout danser selon elle. Il lui pile toujours sur les pieds, il est saoul, il fait un peu n'importe quoi, mais Myra s'en fout. Après, Ian la reconduit chez elle, il l'invite à sortir plus tard dans la soirée. Myra accepte évidemment. Après que Myra se soit chixée, tous les deux se rejoignent quelque part et passent la nuit à aller de pub en pub à se saouler la gueule ensemble. Aux petites heures du matin, devant la maison de Myra, Ian demande s'il peut entrer. Myra refuse, quand même, elle n'aura pas jusque-là. C'est une petite chrétienne. Ian l'embrasse et les deux se quittent. Et là, au bureau, après, au début, les deux font comme si de rien n'était. C'est malaisant, ils s'évitent. Mais Ian finit par inviter Myra au cinéma. Elle écrit dans son journal intime en date du 22 décembre 1961 que les deux ont vu le film King of Kings et ensuite ils sont allés au pub. Et c'est au pub, un peu saoul, que Ian a commencé à manifester sa haine de la religion à Myra. Myra qui est très croyante. Mais elle l'écoute attentivement, elle ne dit rien. Il réussit à la convaincre que Dieu n'existe pas en lui disant des choses comme « Si Dieu existait, comment ça se fait qu'il ait laissé ton ami Michael mourir noyé? » Tu sais, son ami qui était mort noyé dans le réservoir, là?
Oui.
Et ça fait du chemin dans la tête de Myra. Et genre, c'est vrai. Dieu laisserait pas des choses aussi tragiques arriver. Le soir même, les deux couchent ensemble pour la première fois. Donc, les valeurs conservatrices religieuses de Myra, comme se préserver jusqu'au mariage, ont pris le bord assez vite.
Mm-hmm. Ben, elle voulait clairement y plaire, là, dès le début.
Mm-hmm. Leur routine de dating est d'aller au cinéma, soit regarder des films normaux, mais des fois, surtout aussi des films porno. Ian donne ensuite un livre à lire à Myra, souvent sur Hitler ou autre truc du genre. Et ensuite, en mangeant, les deux se font la lecture sur le nazisme. Trop cute, hein? Malgré qu'ils se fréquentent, Ian n'est jamais démonstratif de son affection pour Myra en public. Il la surnomme Kiddo.
Oh my god.
C'est un gros red flag, là, c'est dégueulasse.
Mm-hmm.
Ou sinon, il l'appelle Hess. Puis ça, ça provient de Rudolf Hess, un député d'Adolf Hitler. Fait que là, il se considère comme Adolf Hitler, puis elle, son député, genre.
Ouais.
Complètement bizarre. Myra dit que Ian mentait sur son expérience en matière de sexe. Il était clairement autant inexpérimenté qu'elle. Elle dit qu'au début, c'était malaisant, mais que rapidement, Ian a commencé à incorporer du sadomasochisme et d'autres fantasmes du genre dans leur relation. On rapporte que Ian aimait se faire mettre des chandelles par la porte arrière.
Oh mon Dieu.
Si vous voyez ce que je veux dire.
Je m'attendais comme pas à ça, on dirait.
Bref, okay. Je vais pas aller en détail, mais Ian aimait le sexe très violent. Et Myra dit qu'elle devait être saoule pour faire tout ce que Ian demandait. C'est vraiment triste.
Ouais.
Ça n'a pas pris de temps qu'Ian endoctrine Myra de tous ses points de vue politiques extrémistes et de sa fascination pour Hitler. Il lui apprend l'allemand, lui fait écouter de la musique allemande et lui fait écouter des discours d'Hitler. Et Myra fait tout ce qu'il demande. Il lui dit comment s'habiller et comment se coiffer pour lui plaire. Elle va se bleacher les cheveux pour ressembler à la race aryenne. Et elle va garder ce choix de coiffeur et c'est douteux comme choix parce qu'on dirait qu'elle a une mop sur la tête.
Oh non!
C'est vraiment laid.
Ouais, elle fait tout ça pour lui, là.
Mm-hmm. Elle change aussi drastiquement de style vestimentaire pour des mini-jupes, manteaux de cuir et des bottes à talons. Style dominatrix.
OK.
Ian se procure éventuellement un appareil photo et développe un intérêt à tout documenter. Il prend plein de photos de Myra, notamment pornographiques, selon ses envies et ses désirs. Myra dira plus tard, « En quelques mois, Ian m'a convaincue qu'il n'y avait aucun Dieu. Il aurait pu me dire que la terre était plate, que la lune était faite de fromage vert et que le soleil se levait à l'ouest. Je l'aurais cru, il avait un pouvoir de persuasion. Mais bon, Myra reste une femme ignoble, dégueulasse, sans cœur, qui a commis l'inimaginable. Encore une fois, je le rappelle, elle cherche à vouloir minimiser son rôle dans tout ça et c'est difficile à dire et à savoir à quel point elle était manipulée. Je crois que les deux avaient un monstre assoupi en eux et qu'en se rencontrant, ils l'ont réveillé. Peu à peu, Ian lui mentionne ses fantasmes comme quoi le meurtre et le viol seraient le plaisir suprême. It escalated quickly.
Ouais, c'est ça.
Pour lui, les gens devraient être libres d'agir selon leurs propres désirs primaires s'ils le souhaitent, quelles qu'en soient les conséquences. On dirait qu'Ian a fini par interpréter l'œuvre du marquis de Sade comme une justification de sa propre pédophilie et de son désir de commettre des agressions sexuelles et des meurtres sur des enfants. Et là, comme j'avais dit au début, Ian méprise tout le monde sauf les animaux. Avec Myra, ils vont éventuellement avoir deux chiens qu'ils affectionnent grandement. Et ils aiment tellement les animaux qu'ils fouillent pour trouver des gens condamnés à la cruauté animale pour soit endommager leur propriété ou tout simplement aller les tabasser.
OK.
C'est tellement bizarre.
Mm-hmm.
Juste comment on peut tuer un enfant, mais un chien, tu mérites la mort.
Ouais, c'est ça.
Aux yeux de Myra, les deux sont des âmes sœurs. Ils se comprennent l'un l'autre. Les deux sont des intellectuels. Ils sont cultivés. Ils écoutent de la musique classique et lisent des grands livres cultes. Mais leur principal point commun, c'est leur insatisfaction. Ils aiment pas leur vie. Ils veulent plus. Ils veulent du pouvoir, du respect. Je vais citer Myra. Elle dit « Je trouvais excitant d'aller à contre-courant, de faire des choses que les autres n'oseraient même pas imaginer. » Je ne sais pas jusqu'à quel point, mais j'ai toujours voulu faire quelque chose de différent, de plus excitant. Je n'ai jamais été satisfaite bien longtemps de quoi que ce soit. En effet, avec Ian, Myra se sentait hors la loi et cool. Elle aimait le côté interdit, jaser de nazisme, de violence et de crime. Mais initialement, ce qui excite Myra, c'est pas de tuer des gens, mais plutôt de commettre des crimes comme du cambriolage, des vols de banque. Elle va en planifier avec Ian, un peu comme Fantasy, mais jamais ils vont passer à l'action. Mmh. Quand ils vont passer à l'action, ça va être bien pire. Ian devient de plus en plus insistant et transparent sur ses fantasmes de violer et tuer des enfants. Ça commence par du pillow talk, genre after sex.
Hey boy.
Il lui dit « Ah, oh, j'aimerais tellement ça faire ce qu'on vient de faire, mais avec un enfant. »
Arc, 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 vomi.
Vomi. Mais ça devient de plus en plus concret et Myra a envie de faire plaisir à son chum. Mm-hmm. Et elle commence à former un plan pour rendre les fantasmes de son amoureux la réalité. Ian a fait lire à Myra le livre « Compulsion » de Maya Levin. Est-ce que tu connais?
Non.
Je connaissais pas, mais c'est un livre inspiré d'un true crime de 1924. Le roman raconte l'histoire fictive du meurtre d'un petit garçon de 14 ans par deux étudiants riches. Les deux étudiants sont fans de la théorie du surhomme de Nietzsche. Cette théorie est surtout mentionnée dans « Ainsi parlait Zarathoustra », ceux qui connaissent un peu hein, la philo et tout. Le surhomme, c'est un idéal humain que Nietzsche oppose à l'homme ordinaire. C'est quelqu'un qui dépasse les normes, les valeurs morales traditionnelles et les limites imposées par la société, la religion ou la culture. Selon Nietzsche, le surhomme crée ses propres valeurs au lieu de suivre celles imposées par la morale chrétienne. Il accepte l'idée que Dieu est mort. Il affirme la vie, même dans sa souffrance, et la considère comme quelque chose à célébrer, pas à fuir. Et il est animé par la volonté de puissance, une force intérieure de création, de dépassement de soi. Ainsi, dans le roman Compulsion, les deux étudiants sont convaincus qu'ils sont des surhommes, qu'ils sont intellectuellement supérieurs et de ce fait qu'ils ont le droit, qu'ils méritent de tuer un petit garçon s'ils le veulent. Et laissez-moi vous dire qu'Ian et Myra pensent la même affaire. Ils pensent qu'ils sont des surhommes. Quelle théorie de niaisage!
Ouais.
Ian aime beaucoup ce livre et le true crime derrière parce que les deux meurtriers semblaient parfaitement s'accorder. Et pour lui, c'est la même chose avec Myra. Les deux s'entendent parfaitement et sont d'accord sur leur monstruosité. Ian Brady veut dire « Avant de rencontrer Myra, tout ça était déjà en moi. Et ce sentiment d'irréalité me paralysait. J'en avais peur, je me sentais seule d'avoir ces pensées. Cette énergie restait enfermée, mais quand je l'ai rencontrée, elle m'a donné confiance. Elle croyait en moi, elle m'admirait tellement que j'ai perdu toute peur. L'énergie s'est projetée vers l'extérieur et j'ai perdu le contrôle. C'est fou! Il suffit juste de trouver quelqu'un
ouais.
aussi fucké que toi qui valide ce que tu penses pour te sentir légitime de tuer du monde.
Ouais.
Il aurait peut-être jamais eu les guts de le faire. Là.
Puis en tout cas, il est conscient là, de tout ce qui se passe là, s'il dit un enfant de même. Là.
Ouais, ouais. Il est très conscient.
Hé là là.
On peut y reprocher bien des affaires, mais Ian, il n'a pas peur d'avouer ses torts là-dedans.
Ouais.
T'sais.
Ouais.
Il assume ses gestes, contrairement à Myra.
Mm-hmm.
Après que Myra ait lu le livre, elle s'en sert comme base pour planifier un premier grand coup. Ça y est, ensemble, ils veulent violer puis tuer un enfant. Ils vont méticuleusement planifier leur attaque et ils passeront à l'acte une première fois le 12 juillet 1963. Chapitre 4. Pauline Reed. En ce jour d'été de mi-juillet, Ian Brady a 25 ans et Myra Hindley en a 20, presque 21. Sont fucking jeunes. Il n'y a pas d'âge pour tuer, là, mais...
Non.
What the fuck.
Mm-hmm.
Puis, ils restent jeunes tout au long de l'histoire, là, fait qu'oubliez pas l'âge qu'ils ont, là, ouais, c'est vraiment bizarre.
Mais avec tout ce que tu avais raconté, on dirait que j'avais comme oublié, là, qu'ils étaient
mm-hmm.
encore des adolescents, là, je sais pas, là.
C'est fou.
Des adultes, là, mais des jeunes adultes.
Mm-hmm. Ce jour-là, les deux vont au travail et terminent autour de 17 heures. Ils se rendent chez Myra et se remémorent leur plan une dernière fois. Myra dit de Ian qu'il est extrêmement méthodique. Il compte et calcule tout jusqu'au nombre de boutons sur son veston. Il est un peu maniaque. Donc, pour leur plan, il a pensé à chacune des possibilités. Il a pensé et repensé son plan dans sa tête des millions de fois. Ils doivent respecter une série de codes, de règles pour ne jamais se faire prendre, selon Ian. Ian, il veut faire ça pour toujours. Il veut pas se faire pogner. Mm-hmm. Fait qu'il prend les précautions. Et malheureusement, avec Myra, il veut réussir à faire 5 victimes avant de se faire attraper. Donc, son petit plan fonctionnait d'une certaine manière. Certains de ses codes sont de n'avoir aucun lien avec les victimes, de détruire toute preuve, que ce soit des traces de pneus, des traces de pas, des empreintes digitales, etc. Tout doit être nettoyé, notamment la voiture. Il faut changer de vêtements et brûler ceux qu'il portait durant le crime. Il faut détruire toutes les armes utilisées, brûler les manches des couteaux et faire fondre les lames. Et finalement, ils doivent se trouver un alibi chaque fois. Souvent, ils vont se prendre un billet de cinéma. Et ensuite, au lieu d'aller voir le film, ils
mm-hmm.
vont passer à l'acte. Aussi, ils demandent à ce que les victimes soient prises par surprise et qu'elles ne sachent jamais ce qui les attend. Donc, ne jamais leur dire qu'ils comptent les tuer. Bref, à 19h30, les deux soupent, puis quittent la maison de Myra. Je le rappelle, elle habite encore avec sa grand-mère.
Oh my God.
Et lui, avec sa mère et son beau-père.
Mm-hmm.
Parce qu'ils sont jeunes, là.
Ben oui. Ah, ça rend ça encore plus freaky.
Mmh, elle a 20 ans. 21, quasiment 21. Elle est née en juillet, là, mais...
Mmh.
Même si Myra n'a pas son permis de conduire, c'est toujours elle qui va s'occuper de conduire la voiture. Elle emprunte la van noire de son voisin et commence à arpenter les rues de Gorton avec Ian qui la suit derrière avec sa moto. Il porte des gants de cuir, mais en dessous, il porte des gants chirurgicaux. Il a aussi 2 poignards cachés dans sa manche. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent leur future victime dans les rues. Voici leur technique. Myra, dans la van, si elle voit une potentielle victime, elle va ralentir pour signaler à Ian de regarder. Si Ian y est d'accord, il va faire flasher ses lumières de sa moto en arrière, signe de passer à l'action. Et Myra va se charger d'amadouer l'enfant. Les deux longent Taylor Street puis tournent à droite sur Gorton Lane. Myra voit une petite fille marcher seule sur le trottoir. Elle ralentit et ça prend pas beaucoup de temps qu'Ian flashe ses lumières. Mais quand Myra voit le visage de la jeune fille, elle accélère et s'éloigne rapidement. Là, Ian, il comprend pas pourquoi Myra a accéléré parce qu'il est comme ouais. « Voyons, t'as pas vu mes lumières?
Mm-hmm. »
Et elle lui dit qu'elle connaît la petite, c'est trop risqué. Puis que si elle disparaissait, ça allait attirer trop d'attention parce qu'elle est connue du quartier.
Ok.
La petite fille était Mary Rock, 8 ans, qui habitait au coin de la rue de Myra. Et elle a vraiment échappé belle. Et Ian est juste genre « Ok, whatever, mais continuons, là. Faut trouver quelqu'un. » Donc, à bord de sa moto, il reprend la route. Derrière Myra, dans la vanne noire. Myra aperçoit une autre jeune fille, un peu plus vieille cette fois-ci. Étrangement, elle la connaît aussi. C'est Pauline Reed, 16 ans. Pauline est allée à la même école que Maureen, la petite sœur de Myra. Et Myra connaît aussi la mère de Pauline, qui s'appelle Joan, et le père de Pauline, qui est un partenaire de beuverie avec Bob, son père à elle. Mais bon, elle la connaît, mais elle se dit, elle est plus vieille, elle n'a pas 8 ans, ça va attirer moins d'attention dans les journaux si une fille de 16 ans disparaît, peut-être que les gens vont penser que c'est une fugue. Et elle se dit aussi que vu qu'elle la connaît, elle aura plus de facilité à l'amadouer. Mais déjà là, elle ne respecte pas un des codes d'Ian.
Oui.
Pauline Reed est une magnifique jeune fille aux longs cheveux foncés et aux yeux bleus. Ses parents sont Joan et Amos Reed. Elle a aussi un grand frère nommé Paul, et je trouve ça cute, Paul et Pauline. Et les quatre sont une belle famille tissée serrée. Pauline adore danser, écrire des chansons et composer des poèmes. Elle travaille dans une pâtisserie avec son père Amos. Elle a même déjà passé dans le journal après avoir gagné un concours de gâteau de Noël en 1962. Pauline fréquente une école catholique et elle est très croyante. Elle aspire à devenir religieuse un jour. C'est aussi une grande fan des chanteurs pop Marty Wilde et Adam Faith. Elle est aussi connue pour son sens de l'humour et aujourd'hui encore. Une nièce qu'elle n'a jamais eu l'occasion de rencontrer, qui s'appelle Jackie, conserve précieusement l'un de ses livres de cuisine. Elle y avait inscrit son adresse et ajouté le commentaire suivant. Ce livre appartient à Pauline Reed. Si ce livre se perd, donnez-lui une fessée et renvoyez-le chez lui en pleurant. XOXO Pauline.
Oh, voyons.
Donc, juste une ado cool dans son petit monde qui se trouve drôle, tu sais, qui vit sa vie. On dit d'elle que c'est une fille tranquille, un peu peureuse, tu sais, elle fait pas confiance aux inconnus. Mais elle connaît Myra.
C'est ça.
Ce vendredi 12 juillet 1963, Pauline revient de son shift à la pâtisserie. À la maison, elle convainc sa mère d'aller à une danse ce soir, ben de la laisser aller à une danse ce soir, au British Railways Social Club. Je trouve ça tellement cute que dans le temps, les activités sociales, c'était d'aller à la danse.
Oui.
C'est quand même vraiment chou.
Oui, vraiment.
Donc, elle enfile ses nouveaux souliers à talons blancs, une belle robe, un manteau bleu et des jolis gants. Avant de partir, sa mère lui donne un collier à porter autour de son cou durant la soirée et elles se disent « Je t'aime ». Pauline, toute belle, quitte la maison en direction de la danse. Et là, Pauline est stressée parce qu'elle s'en va à la danse toute seule. Puis c'est pas dans ses habitudes, parce que c'est quelqu'un de très timide. Mais ses meilleures amies, Pat et Linda, lui avaient dit qu'ils pouvaient pas y aller à la danse parce qu'il allait avoir de l'alcool, puis leur mère, ils voulaient pas qu'il y aille. Mais là, Pauline, elle s'est dit, « Moi, ma mère, elle veut, je suis une grande fille, je suis capable d'y aller toute seule. » Mais ce que Pauline savait pas, c'est qu'entre-temps, ses amies avaient finalement réussi à convaincre leur mère d'aller à la danse. Et il voulait faire une surprise à Pauline en se cachant à l'entrée de la salle pour lui faire une surprise quand Pauline allait arriver. Fait qu'ils n'ont pas marché avec elle jusqu'à la danse.
Ah là 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 là.
Ce soir-là, Pat et Linda marchent sur le trottoir et aperçoivent Pauline au loin, en direction de la danse. Puis là, ils sont comme « Oh my God, faut pas qu'elle nous voit! » Fait que là, ils changent de direction.
Ah,
puis ils se mettent à courir dans une ruelle pour arriver avant elle à la danse. Et c'est à ce moment-là
tellement crève-cœur
que Pauline veut croiser Myra. Il l'avait vue au loin. S'il n'avait pas décidé de faire une surprise, il aurait marché les trois ensemble puis elle s'en serait sortie. Là. C'est pas de leur faute du tout, là,
non, c'est fait, juste un petit concours de circonstances de marde, là.
C'est tellement chien.
Ouais.
Après l'avoir vue au loin, Pat et Linda ne reverront jamais Pauline. Juste après qu'elles aient pris un autre chemin, Myra Hindley, à bord de sa camionnette, s'arrête vis-à-vis la petite Pauline. Elle lui propose un lift et Pauline, connaissant Myra, accepte. Ian Brady est juste derrière et il regarde la scène à bord de sa moto et il est ravi. Il est tout émoustillé et ça m'écœure. Il voit là, une ado rentrer dans la vanne puis lui se dit « Oh yes, on s'en va la tuer. » Genre, terrifiant. Sur la route, Myra demande à Pauline si elle peut faire un petit détour. Elle a perdu un gant cher à ses yeux et elle aimerait que Pauline l'aide à le retrouver. Myra lui promet de lui donner des disques en échange et Pauline accepte. On s'entend qu'il n'y a pas de gant.
Mais non.
Durant tout le trajet, Myra renifle le parfum de Pauline. Elle trouve qu'elle sent vraiment bon puis elle trouve qu'elle sent comme elle. Elle essaie de se détendre, mais elle est tendue, stressée. Ses mains serrent le volant au point que ses jointures sont blanches. Elle n'en revient pas qu'ils vont commettre ce qu'ils vont commettre. Elle ne dit pas un mot. Pauline lui demande si tout va bien et Myra répond pas. L'ambiance est louche.
Est-ce que je paniquerais, là?
Mm-hmm.
Hey boy.
Et ils conduisent 22 km pour aller retrouver ce gars. Et les deux arrivent à Saddleworth Moor. Saddleworth Moor, c'est une zone de lande peu peuplée. C'est genre une grande plaine parsemée de vallées à perte de vue. Elle se situe au sud de la chaîne des Pennines, dans le nord de l'Angleterre. Le couple, et surtout Ian, fasciné par les paysages naturels, a beaucoup fréquenté ce lieu.
Mm-hmm.
Et ils ont décidé que les landes allaient devenir leur terrain de jeu. C'est isolé, loin de la civilisation et parfait pour commettre un crime.
Hey, c'est sûr que Pauline, elle devait savoir, là, tu sais, après autant de routes, là.
Mm.
Elle sait qu'il y a de quoi qui va pas bien, là.
Le soleil se couche,
puis elle y répond pas non plus, genre.
Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais dans l'auto, là? Donc là, on va arriver au moment où les versions varient. Parce que tout ce qu'on sait, c'est les témoignages d'Ian et Myra, et les deux, ils ont une version très différente des choses.
C'est sûr.
Surtout parce que Myra dit qu'elle est complètement innocente et qu'elle n'a rien à voir là-dedans.
Bien sûr.
Donc, on va plus se fier à la version d'Ian, mais lui, de son côté, il aime ça ajouter à l'horreur des choses, romancer les faits. Par exemple, Myra dit qu'une fois arrivée aux Landes, Ian les avait rattrapés puis il était déjà là. Mais Ian, lui, dit qu'il les a rejoints et que les deux filles étaient déjà là et l'attendaient en train de fumer dans l'auto. Disons que c'est plus logique que les deux filles soient déjà là si Ian les suivait en arrière.
Mm-hmm.
Selon moi, Ian, c'est une grosse merde, mais Myra, c'est une grosse merde menteuse. Il embellit peut-être les faits pour que ça soit plus sensationnaliste, mais il n'a pas peur de s'incriminer. Donc, j'ai plus me fier à ses versions des faits. D'après Ian, il a rejoint les deux filles qui fumaient dans la camionnette. Il a commencé à enlever ses gants de cuir en s'approchant du véhicule, mais il a remarqué qu'il portait ses gants chirurgicaux en dessous de ses gants de cuir, puis il a juste fait genre « oh fuck », puis il les a remis. Subtil. Myra agit comme si elle est surprise de voir Ian. Quel heureux hasard que mon chum soit dans les Landes, ouais, tard le soir.
En plein milieu de nulle part.
Ouais. Et elle le présente à Pauline. Ian la trouve tout de suite magnifique, vomi. Et les trois ensemble cherchent le fameux gant de Myra qu'elle aurait perdu dans la vallée.
Ben oui.
C'était ça le subterfuge initial. Mais une fois enfoncés dans les Landes, Ian fait un signe à Myra qu'il est prêt. C'est un signe qui s'était dit à l'avance. Il allait comme hocher les sourcils en voulant dire « on y va ». Mais c'est dégueulasse. Ça
c'est dégueulasse.
Je l'ai fait en te regardant puis ça m'a dégueulé.
J'ai vraiment eu l'image.
Myra dit qu'à ce moment-là, elle est retournée dans la vanne. Ian dit qu'elle était présente tout le long et impossible qu'Ian ait tout fait ça tout seul.
Ouais.
Pauline a quand même 16 ans, elle se serait débattue. Ian aurait eu des marques s'il avait été tout seul. Mais non, Myra, chaque fois, elle maintenait les victimes en place. Je suis convaincue qu'elle était là à chacun des 5 meurtres. Ian a sauté sur Pauline par derrière et l'a maintenue en l'étranglant avec son bras. Pauline est tombée au sol et Ian lui a dit que ça servait à rien de crier. Personne pourrait l'entendre ici.
Tabarouette.
Selon Ian, Pauline s'est retournée vers Myra et l'a suppliée de l'aider. Mais Myra ne faisait que sourire en retour, un sourire démoniaque, et lui a dit de se taire. Pauline a dit à Ian qu'elle était dans sa semaine, qu'elle avait ses règles, comme dernière tentative pour empêcher Ian de commettre ce qu'il s'apprêtait à faire.
Ah, oh, pauvre petite.
Ouais, mais Ian a dit qu'il s'en foutait. Pendant qu'il la maintenait en place, Myra l'a déshabillée et les deux ensemble l'ont agressée sexuellement. Ensuite, ils l'ont laissée se rhabiller. La pauvre Pauline remet ses vêtements et quand elle s'apprête à mettre son collier que sa maman lui avait donné pour la danse, Myra lui a arraché des mains et lui a dit « Tu n'en auras pas besoin là où tu t'en vas. » Là, Ian se retourne vers Myra et il est fru parce que là, Myra vient d'insinuer Pauline s'en sortira pas vivante. Et Ian, c'était son petit jeu de la laisser se rhabiller puis de jouer avec son espoir d'être relâchée. Mais là, après ce que Myra a dit, Pauline commence à paniquer encore plus parce qu'elle se doute de la suite des choses. Ian, il est furax et il gifle Myra devant Pauline. Là. Imagine comment elle devait rien comprendre de ce qui se passe.
Ouais,
juste
ouais,
ouais. De regarder se chicaner pendant qu'elle, elle se rabille. Genre, cauchemar. Et là, après la gifle, il y a un long silence. Et là, comme pour se venger de la gifle, Myra dit à Ian, elle s'appelle Pauline Reed, puis je la connais. Puis elle connaît ma sœur aussi. Comme pour l'envoyer chier, pour lui dire « J'ai pas respecté ton code. »
Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire aussi avec les couples meurtriers. On dirait que dès que t'es deux, genre, c'est sûr qu'il va y avoir un problème.
Ouais.
Genre, c'est sûr, sûr, sûr.
C'est sûr. Elle dit « Pauline connaît ma petite sœur Maureen, puis elle connaît même le chum de ma petite sœur qui s'appelle David. » Cette révélation-là va faire réfléchir à peut-être une autre raison de pourquoi Myra a choisi Pauline comme victime. Parce que, et là, c'est pas prouvé, là, c'est une théorie, mais... ça, c'est prouvé, mais je veux dire, la raison derrière, c'est une théorie. Mais qu'est-ce qui est prouvé, c'est que quelques jours avant le drame, Pauline, elle aurait été vue avec David Smith, le chum de la sœur de Myra.
OK.
Donc, Maureen sort avec David.
Ouais.
Et là, quelques jours avant de l'avoir kidnappée, Pauline, elle a chillé avec David. Et Maureen était ultra jalouse et haïssait Pauline. Okay. Et là, on se demande si Myra voulait pas venger sa petite sœur en choisissant elle.
Non, genre, il y avait un background.
Si elle disparaît, elle dérangera plus ma petite sœur.
Ouais.
Puis Myra était très, très protectrice de sa petite sœur. Ça serait son genre de vouloir faire des trucs de même pour elle. Et David, Maureen, rappelez-vous d'eux, ils vont revenir. Bref, là, Ian réalise que Pauline ne peut être tracée à Maureen, son chum David et Myra, et donc lui. Et là, il est en colère, il n'en revient pas. Il dit « Bon, ben maintenant, j'ai pas le choix de la tuer. Il y avait une possibilité de la laisser sortir vivante, mais là, j'ai pas le choix. » Moi, je pense qu'il voulait déjà la tuer anyway, mais bon.
Ouais, ouais, il dit sûrement ça pour la faire sentir mal.
Ouais, puis il est juste fru de pas avoir eu le choix.
Mm-hmm.
Ian court jusqu'à la vanne chercher son appareil photo. Il retourne voir Myra et Pauline. Quand il revient, Myra est couchée par-dessus Pauline, qui, elle, crie au meurtre. Il réalise que durant le 30 secondes d'absence, Myra a essayé de poignarder Pauline.
Oh my God!
Mais que la lame du couteau avait cassé. Myra s'en est donc réduite à frapper à maintes et maintes reprises Pauline jusqu'au sang. Le visage de Pauline est tuméfié, son nez est cassé et elle saigne de la bouche. Clairement, Myra avait une dent contre Pauline parce qu'elle aurait pu attendre Ian avant de commencer.
Ben oui,
là.
Ben oui. 100%.
Il est parti genre une minute. Ian est découragé. Ça se passe pas du tout comme il avait prévu. Il s'agenouille et prend son poignard caché dans sa manche. Il ouvre le poignet de Pauline puis lui tranche la gorge. Il manque sa carotide la première fois, donc il lui retranche la gorge et cette fois-ci, il réussit. La coupure est tellement profonde qu'elle est presque décapitée. Pauline Reed, 16 ans, meurt au bout de son sang en quelques instants. Après une soirée des plus cauchemardesques. Ian demande à Myra de se débarrasser des armes, de brûler leurs vêtements et de nettoyer la vanne. Pendant ce temps, il fume des cigarettes et il fait attention de botcher dans sa poche pour ne laisser aucune trace au sol. Ensuite, il s'assoit et fixe le corps sans vie de Pauline. Pendant que Myra fait le ménage. Dégueulasse.
Ouais, c'est terrible.
Une fois que Myra a terminé de tout laver, les deux creusent ensemble un trou de 5 pieds de profond et enterrent Pauline. Ils font attention que la terre n'a pas l'air d'avoir été creusée ou déplacée et ils comptent le nombre de pas pour se rendre à l'emplacement pour s'assurer de pouvoir y retourner s'ils le veulent. Sur la route du retour, Myra avoue à Ian qu'elle a gardé le collier de Pauline.
Hostie de tabarnak.
Ian, il est juste genre, what the fuck, tu m'écoutes pas, cette conne, tout notre code, il sert à rien, genre. Il va dire plus tard, c'est dans la nature humaine que, s'ils se font prendre, les disciples rejettent la faute de leur conduite criminelle sur leur maître.
Ouais.
Mais si les crimes sont réussis, je peux vous assurer, d'après une vaste expérience personnelle, que le dévouement des disciples à ses activités peut surpasser celui du maître. Il dit qu'à ce moment-là, il a réalisé « Myra est aussi pire que moi, ou même pas plus ».
Ouais, je comprends.
De son côté, Mara veut dire qu'elle est restée tout le long dans la vanne, qu'elle n'a rien vu aller, puis que Ian a gardé le collier de Pauline. Elle, elle n'a rien vu de ce qui s'est passé.
Ouais.
On en doute. Leur soirée s'est terminée au cinéma, pour confirmer leur alibi. Ils ont bu du vin et ont couché ensemble pour célébrer leur premier crime.
Ça me lève le cœur. Mm-hmm. Ils ont genre 22 ans, là, 21 ouais. ans. Mm.
20-25. Pendant tout ce temps, pendant l'attaque brutale et inhumaine sur sa fille, Joan Reed, sa maman, s'inquiétait pour elle. Elle se demandait si elle allait bien se passer, elle se demandait si elle avait bien fait de laisser sa fille aller seule à la danse. Un moment donné, trop inquiète, elle a juste ouvert la porte pour voir si sa fille était pas plus loin dans la rue, et elle a remarqué que Pauline avait échappé un de ses gants dans l'entrée.
Oh.
Elle l'a ramassé puis l'a rangé dans un tiroir, puis ça lui a donné un drôle de pressentiment. Quand Pauline rentre finalement jamais de la danse, Joan envoie Paul, son fils, chercher sa petite sœur partout dans les rues. Paul croise au loin Mara et Ian sortir du cinéma, tout bonnement, et il revient sans nouvelles de sa sœur. Parce qu'il dit c'est un couple du voisinage, ils n'ont rien à voir là-dedans.
Oh my God, ça brise le cœur. Puis les deux petites amies aussi, là, Linda et Pat, là, ils devaient tellement se sentir mal, là, mais genre, c'est pas de leur faute, là, mais ils devaient tellement se dire, genre, oh my God, on l'a vu, genre, deux secondes avant, là, puis on s'est comme un peu enfui d'elle pour y faire une surprise, mais genre, ils vont tellement se le remettre d'en face, là. Pauvre petite.
Puis c'était tellement une idée cute et naïve, juste genre, je les imagine partir à la course, prendre un autre chemin dans la petite ruelle.
Ça peut tellement finir vite, là, ça n'a pas de bon sens. Elle, elle faisait juste marcher dans la rue, puis comme elle s'en allait, elle était presque arrivée sur moi. Genre, c'est tellement...
Genre, c'était pas loin, là.
Arrgh.
Le lendemain matin, on annonce qu'une jeune fille de 16 ans est disparue. Pauline est partout dans les journaux. Une enquête commence, mais les policiers n'ont aucune piste. Ian et Myra ont fait bien attention de ne laisser aucune trace. Joan Reed a attendu dehors, manteau sur le dos, pendant 3 mois que sa fille revienne. Elle a parcouru toutes les villes avoisinantes en bus, elle a fait du porte-à-porte, parlé aux nouvelles, fait des entrevues, elle n'a jamais abandonné. Elle s'est même trouvé une job de représentante avant pour pouvoir faire du porte-à-porte. Genre produit de beauté, là, aller chez le monde. Parce que la théorie principale était une fugue. Fait qu'elle espérait voir peut-être que sa fille était partie avec un gars vivre quelque part. Fait qu'en faisant du porte-à-porte, peut-être que je vais juste tomber sur elle à un moment donné.
Pauvre petite.
Je vais y revenir un peu, là, mais beaucoup plus tard, elle va faire une crise de nerfs et être internée pour quelques temps tellement la disparition de sa fille l'a affectée.
Ça m'étonne pas. Je sais pas comment je réagirais si ça m'arrivait, là. J'ai pas d'enfant, là, mais tabarouette.
Et la torture de ne pas savoir aussi, là, ça va être extrêmement long avant qu'elle sache ce qui est arrivé à sa fille.
C'est ça.
Elle croise souvent Myra, qui habite au bout de la rue, qui lui parle comme si de rien n'était et qui lui dit qu'elle est désolée pour sa fille. Après ça, tu sais que tu n'as rien fait, mais tu t'amuses d'aller la voir et de tourner le couteau dans la plaie. Après leur premier meurtre, que Ian considère un meurtre parfait... même si ça s'est vraiment mal passé. Ils ont quand même laissé aucune trace, il faut leur donner ça.
Ben, ils ont laissé aucune trace, mais ils ont comme enterré le corps sous terre.
Mm-hmm.
Tu sais, ils n'ont pas brûlé rien, dans le fond. Ben, ils ont brûlé les vêtements, mais il doit y avoir des traces quand même sur le corps, là, un coup que tu trouves. En tout cas,
Mais eux, ils se disent 5 pieds sous terre dans un terrain vague de 600 kilomètres carrés. Qui tomberait là-dessus. On y revient. Mais pour l'instant, vraiment, là, c'est en effet un peu un crime parfait parce qu'il n'y a rien qui les relie à ça, puis il n'y a aucune trace de Pauline. On pense qu'elle a fugué. Donc, après leur premier meurtre, Ian offre à Myra un disque, la trame sonore du film The Legion's Last Patrol in the UK. Il dit que c'est un cadeau, entre guillemets, d'anniversaire de leur premier meurtre. Ils vont fredonner la chanson thème chaque fois qu'ils veulent se remémorer le crime. Et ça va être récurrent. Ils vont avoir un disque à chaque meurtre pour une chanson thème associée à chaque enfant qu'ils vont avoir tué. Ils sont complètement dégueulasses. J'ai pas, je dis dégueulasse, mais c'est parce que c'est ça le mot. Ils sont dégueulasses.
Ouais, ouais. J'ai pas de mots non plus. Je peux pas rajouter rien. Ça m'écœure.
Mm-hmm. Et là, autour de novembre 1963, Ian, il veut un gun. Il veut se sentir cool avec un gun. Mais à cause qu'il y a un casier judiciaire, il peut pas s'en procurer un. Donc, il demande à Myra de lui en trouver un. Elle lui achète donc un fusil et un revolver. Et éventuellement, les deux, probablement tannés de fredonner toujours la même toune, veulent repasser à l'acte. Chapitre 5. John Kilbride. Ian ordonne à Myra de trouver un enfant, cette fois pour que ce soit plus facile à contrôler. Pauline, 16 ans, était trop grande et trop forte et ça lui a donné du fil à retordre, selon lui. Donc là, il dit « Trouve-moi quelqu'un de plus jeune. » Arc. Le samedi 23 novembre 1963, le couple prévoit d'aller à Ashton-under-Lyne, un bourg en Angleterre qui a un gros marché la fin de semaine. Puis là, ils se disent, avec la foule, ça va être facile de trouver un enfant sans surveillance, puis on va passer inaperçu. Cette fois, Myra loue une voiture, et Ian a déjà acheté le cadeau d'anniversaire pour leur deuxième meurtre, donc il est sûr que ça va fonctionner. C'est un disque de 24 Hours from Tulsa de Jane Pitney. Les deux en profitent pour faire une petite escapade en amoureux durant la journée. Ils vont au lac, ils font un hike et tout. Et ensuite, ils veulent passer à l'acte. Myra se déguise cette fois-ci. Elle va porter une perruque noire, mais on dirait plus comme sa coupe de cheveux naturelle. Mm-hmm. C'est comme elle se ressemble encore. C'est juste... en tout cas. Ou elle ressemble à sa sœur, en fait. Parce que sa sœur, c'est sa copie conforme et en brun foncé, genre. Okay. Fait que là, on dirait sa sœur. C'est un peu une drôle d'idée, mais bon. Elle va porter une perruque noire, un foulard et des lunettes de soleil. Et, vêtue de cette façon, elle va au magasin acheter une pelle, un couteau et de la corde. J'imagine le caissier scanner ça, puis elle est déjà...
Ouais, c'est tellement genre le murder kit de film.
Ouais! Avant d'aller à Ashton-under-Lyne, aussi, Myra et Ian vont à Manchester se prendre des billets de cinéma pour voir To Russia With Love, un James Bond. C'est leur alibi. Ils aiment bien James Bond, nous autres. Ensuite, ils couvrent le coffre de la voiture de location de pellicule plastique et y mettent tout leur équipement, ainsi que leur nouveau brand new gun, et ils sont prêts. À peine sont-ils arrivés au marché de Ashton-under-Lyne que Ian dit à Myra « Stop, je veux un petit gars, c'est lui que je veux. » Ce jeune homme est John Kilbride, 12 ans. John habite à Ashton-under-Lyne avec ses parents Sheila et Patrick Kilbride et il est juste adorable. T'as envie de lui croquer la joue tellement il est adorable, ça brise le cœur. Il a un petit regard tannant, un sourire moqueur, on dirait toujours qu'il a envie de ricaner ou qu'il a un mauvais coup derrière la tête. John a 6 frères et sœurs, puis il prend très bien soin d'eux. Il aime aider les autres, il aide beaucoup sa grand-mère malade, il va souvent chez elle faire des tâches ménagères pour elle. Il est très proche de son petit frère, un an plus jeune que lui, Danny. John, c'est un bon petit garçon, poli, bien élevé, empathique et serviable. On dit qu'il chante toujours pour lui-même, il fredonne toujours un petit air. Il est populaire, il a plein d'amis, tout le monde l'aime. Il joue au soccer, il adore aller au cinéma, il parle toujours de films. Il était d'ailleurs au cinéma avec des amis juste avant d'aller au marché ce jour de novembre. Ses amis et lui faisaient souvent ça, là, ils allaient au marché puis ils proposaient aux vendeurs de les aider en échange d'un petit pourboire ou de la bouffe. Puis je trouve ça cute. On s'occupe, dans ce temps-là, il n'y avait rien à faire. Hein? Ce jour-là, il porte un chandail blanc, des pantalons en flanelle et la vieille veste de son père que sa mère avait recousue pour qu'elle lui fasse. Dans un documentaire, Sheila veut dire qu'elle jetait jamais rien, qu'elle cousait et ajustait chaque vêtement pour toute la famille. Tout était récupéré. John portait aussi un manteau avec des boutons en forme de ballon de soccer.
J'ai le cœur brisé.
Mm-hmm. C'est vraiment crève-cœur. Autour de 17h30, Ian et Myra le voient, seuls, en train de manger un biscuit qu'un vendeur lui avait donné en échange de ses services. Je l'imagine juste assis sur un petit banc, bouffer un petit biscuit tranquille, tout seul.
C'est terrible.
Myra s'approche de lui. Elle l'aborde en lui disant des trucs comme « il est tard, qu'est-ce que tu fais seul ici? » Il est juste 5h30, là, c'est quand même vraiment pas si tard. Myra dit, Ian est juste un peu plus loin derrière, là. Elle dit « On est des parents, nous aussi, puis à la place des tiens, on serait morts d'inquiétude. On se demanderait vraiment tu serais où. » Là, elle veut comme le faire sentir mal. Et finalement, elle réussit à gagner la confiance de John et elle lui propose « Ben là, pour que tes parents arrêtent de s'inquiéter, je vais te reconduire à la maison, OK? »
Ah, ben oui, ben oui, ben oui.
Et le petit John accepte parce qu'il est genre « Ah, oh, mais là, je veux pas que mes parents soient affreux contre moi, t'as raison.
Mm-hmm. »
Sur la route, Myra utilise le même stratagème. Elle lui parle d'un gant perdu dans les Landes, un gant qui a une grande valeur sentimentale pour elle. Elle lui demande s'il peut l'aider à le retrouver et en échange, elle veut lui donner une bonne bouteille d'apéritif à donner à ses parents pour s'excuser de son retard. Encore une fois, elle manipule, elle le fait sentir mal. Ian va dire plus tard que plus il roulait loin de la maison du petit John, plus le soleil se couchait, plus John semblait nerveux. Il gigotait, regardait autour de lui, il sentait que quelque chose clochait. Il commence à faire sombre et John pose des questions. Il se demande en combien de temps on arrive, on s'en va où, c'est quelle couleur le gant. Mais ni Myra ni Ian répondent. Un silence lourd règne dans la voiture tandis qu'il s'enfonce dans les Landes. Une fois arrivé, Myra et Ian ont encore une fois une version différente des faits. Myra dit qu'elle a droppé Ian et John, qu'elle a accompli sa part du marché puis qu'elle a attendu 30 minutes au loin qu'Ian fasse ses affaires. Ian dit tout autre chose.
Mm-hmm.
Trigger warning. Ian dit que les trois ont débarqué de la voiture et ont rapidement sauté sur le petit John qui se débattait énormément. Même s'il était plus jeune, la théorie de Ian n'a pas fonctionné parce que c'était tout aussi dur de le maîtriser et s'est pas laissé faire. Pendant que Myra le maintient en place, Ian a agressé sexuellement le petit John. Et ensuite, il a essayé de lui trancher la gorge, mais le couteau était mal aiguisé. Alors, il l'a étranglé avec une corde. John Kilbride est ainsi mort étranglé à seulement 12 ans. Le couple a enterré son corps dans les Landes et après avoir mis son corps dans le trou, Ian y a frappé le dos de John en criant au ciel « Take that, you bastard! »
Ben voyons.
Ouais, word, ben voyons. Selon lui, Ian s'adressait à la force maléfique qui règne sur le monde. Mais bon, moi je te dis juste ta gueule, là, de quoi tu parles? Est-ce que tu as vraiment fait ça de un, là?
Mm-hmm.
Tu racontes ouais, ça après, ça. Peut-être que tu étais dans une lancée poétique qui est bizarre.
Un peu, là.
Ouais. Voyons, de quoi mettre le poing dans les airs? Take that, you bastard! Voyons. C'est con, c'est dégueulasse, c'est inhumain. Il vient de tuer un petit gars avec sa blonde, puis il réussit à vouloir trouver une manière de rendre ça encore pire.
Genre de romancer l'histoire.
Ouais, c'est déjà assez tordu comme ça. Les deux s'en vont ensuite. De retour chez Myra, le couple nettoie la voiture de fond en comble, comme la première fois. Pendant ce temps, les Kilbride sont en panique. Le petit John n'est jamais en retard et là, personne ne sait où. Son petit frère Danny fait du porte-à-porte, mais rien, personne ne l'a vu. Autour de 21h, la mère Sheila appelle la police. Des recherches massives sont lancées. Des affiches sont publiées partout dans la ville avec la petite face trop cute de John. Mais, encore une fois, ils n'ont aucune piste.
Mm-hmm.
Le lundi suivant, de retour au boulot, comme si de rien n'était, Myra et Ian sont fiers de leur shot. Et là, sont contents parce que tout le monde au bureau parle de la disparition de John Kilbride. Ian veut qu'on parle de ses crimes, il veut semer la terreur, la peur, la panique, le chaos, il cherche les réactions, donc là, pour lui, c'est du pur délice. Le mercredi, Myra et Ian retournent aux Landes, sur les lieux des tombes de Pauline et John, pour se ressourcer, revivre le thrill que c'était de tuer ces deux pauvres enfants-là. Malgré les recherches, rien n'est concluant, des centaines de bénévoles font des battues, mais rien. Sheila va quand même mettre le cadeau de Noël prévu à John en dessous du sapin. Noël va passer et toujours aucune nouvelle de son fils. Elle va continuer chaque soir de servir une assiette pour John, juste au cas.
Ben voyons donc. Voyons. Mm-hmm. Ça brise tellement le cœur. Le sapin de Noël puis les assiettes à chaque soir.
Oui. Elle avait 7 enfants. Le 7 enfants puis elle mettait toujours 7 assiettes pareil. Terry, un autre des frères de John, va dire plus tard « Ma mère chantait toujours en cuisinant ou en faisant le repassage. Mais depuis, c'est silence dans la maison. » Les familles brisées, les parents, là. Mm-hmm. C'est horrible. Avec l'aide des policiers, on va diriger les fouilles de plus en plus proches des Landes, qui sont pas trop loin de là. Puis c'est comme un peu naturel pour les policiers de se dire peut-être qu'il y aurait un corps là. Parce qu'avec le temps, on commence à se douter que John est vivant. Mm-hmm. Myra, elle commence à être stressée, mais Ian, il s'en fait pas. Il dit « Les Landes sont immenses, c'est juste un guess et ça veut rien donner. Faut pas s'inquiéter. Personne nous a vus, puis il a raison. » La famille Kilbride, désespérée, va faire appel à une médium qui va leur dire « Le corps de John se trouve un peu plus bas sur une pente, avec un horizon complètement dénudé et pas un arbre en vue. Une route principale sur la droite et tout près d'un ruisseau. » Et c'est quasiment pinpoint, là. Mm-hmm. Mais moi, je pense que c'est juste un addon parce que c'était en même temps que les policiers fouillaient les Landes. Fait que, en tout cas, anyway, moi, je crois pas trop à ça, là. Mm-hmm. Les médiums qui trouvent des corps, désolé mm-hmm. ceux qui y croient.
Ouais.
Moi, j'ai beaucoup de doutes là-dessus, fait que bref, mais je tenais à le dire. Ian et Myra continuent de visiter les Landes juste pour vérifier que personne ne s'est approché des tombes de leurs victimes. Ils flânent aussi autour de la maison des Kilbride juste pour les voir souffrir. Au jour de l'an, le couple est allé aux Landes boire un verre de whisky et trinquer en l'honneur de John. Shut the fuck up.
Ça n'a pas de bon sens.
Et c'est à partir de février 1964, je crois, que le couple commençait à se prendre en photo dans les Landes, des photos artsy au-dessus des endroits où ils ont enterré leurs victimes. Et de prime abord, ces photos-là, ils ont l'air de des photos bien normales, de genre Myra qui tient son petit chien dans les bras devant un beau paysage. Mais ces photos-là, ils ont une valeur sentimentale détraquée. Puis Ian, il aime ça, placer ces photos-là dans des albums de famille ordinaires. Puis là, des feuilletés avec sa famille, ses parents, ses beaux-parents. Puis là, les parents font juste genre « Ah, wow, c'est bien beau! » Puis lui, il genre « Ouais, hein, c'est beau paysage! Ah, » Mais en dessous des pieds de Myra, il y a le petit corps de John enterré.
Ouais, c'est ça. C'est tordu, là.
C'est dégueulasse. Chapitre 6. Keith Bennett. Le temps passe et le 16 juin 1964, l'envie de recommencer revient. C'est environ 5-6 mois que les pulsions reviennent au couple. On a eu Pauline en juillet 63, ensuite John en novembre 63, et là, on est en juin 64. Peu de temps avant ce jour fatidique, le couple s'est procuré une nouvelle voiture, un station wagon. Donc là, c'est parfait pour les aider dans leur méthode de kidnapping sadique. Ian offre également un nouveau cadeau d'anniversaire pour leur prochain meurtre, hein, encore une fois, un autre disque. Là, c'est « It's Over » de Roy Orbison. Pardon. Je sais pas trop, je connais pas ces musiques-là, mm-hmm. là, mais je suis allée les écouter, puis on dirait que là, je trouve ça creepy à cause que...
Ouais, c'est ça.
Anyway. Ce sera la chanson thème de leur troisième meurtre. Donc, ce 16 juin, Myra, toujours vêtue de son petit déguisement, va chercher Ian chez lui autour de 19h30. Et à peine tourne-t-il un coin de rue qu'il tombe sur un groupe d'enfants qui jouent dehors. Ian en repère un parmi eux. Il décide immédiatement qu'il sera leur prochaine victime, Keith Bennett, qui vient tout juste d'avoir 12 ans. Keith est tout petit pour son âge, il n'a pas l'air de faire 12 ans. Il est tout mignon, il a les cheveux pâles, il porte des grosses lunettes, puis il a un beau sourire avec des petites dents espacées, trop mignonnes. Il est dans une grande famille lui aussi, 6 enfants, et ils vivent tous avec leur mère Winnie et leur beau-père Jimmy. Au moment où l'histoire se déroule, Winnie est enceinte de 7 mois. Keith s'entend super bien avec son beau-père Jimmy et ses demi-frères et sœurs. Il considère sa demi-sœur Susan comme sa meilleure amie. Keith est un garçon passionné de football, et là, je pense que c'est soccer, parce que là-bas, ils disent mm-hmm. foot pour du soccer. Il adore la nature, les insectes et collectionne les pièces de monnaie. Et les descriptions des enfants me tuent, là. C'est juste des enfants qui ont des petites passions, des petits trucs, qui font leurs petites affaires, toute leur vie devant eux. Mm.
Tu peux pas, genre, concevoir qu'une affaire de même va arriver, là. C'est...
Ben non.
Ça n'a pas rapport.
Vraiment pas. Ce soir-là, Winnie, très enceinte, reconduit ses 6 enfants à pied jusqu'à la maison de leur grand-mère pour les faire garder pendant qu'elle va jouer au bingo. Elle faisait ça souvent, là, de temps en temps. Elle aime bien ça, le bingo, puis ça lui donne un break des enfants. La grand-mère allait reporter les enfants à la maison le lendemain matin. Mais en chemin, Keith aperçoit ses amis jouer dans la rue. Puis là, il dit « Maman, maman, je peux-tu aller jouer avec eux? » Et là, Winnie, elle accepte. Là, on est en 1964, il n'est pas trop tard, 19h, 19h30. On est dans un quartier que tout le monde se connaît, puis sa grand-mère habite juste à côté.
Ouais.
Fait que là, elle dit « Oui, mais tu dois rentrer avant la tombée de la nuit chez grand-maman. » Winnie se rappelle voir son fils courir au loin et avant de tourner le coin de rue, se retourner pour lui faire un signe de revoir et de partir ensuite. Juste un petit « bye-bye ». C'est la dernière image qu'elle a de son fils.
À chaque fois, on dirait, hein, t'es comme, hey, t'sais, s'il était allé le porter chez sa grand-mère direct, peut-être qu'il n'y aurait pas.
Mm-hmm.
Puis qu'elle aurait dit non, mettons, tu iras jouer demain.
Mm-hmm.
Va passer du temps avec ta grand-mère. Genre, y a toutes les affaires, il y a tout le temps si un détail avait changé, genre, il n'y aurait pas vécu ça.
C'est comme frustrant. Ne tient qu'à un fil, genre.
Mm-hmm.
Encore une fois, les versions changent ici. Myra prétend que les deux ensemble ont croisé Keith dans la rue et lui ont demandé de l'aide pour mettre des boîtes dans leur voiture et éventuellement utiliser le petit stratagème du gant perdu. Ian, lui, dit qu'il est resté en retrait et que c'est Myra qui est allée voir Keith et qui l'a attiré jusqu'à lui. Bon, j'irai pas en détail, mais la version de Myra, ni queue ni tête, a dit que au début, Keith était sur la banquette avant et Ian était sur la banquette arrière. Puis qu'à un certain moment, elle a arrêté, elle a demandé à Keith d'aller en arrière avec Ian. Ian a changé de place avec lui. En tout cas, on dirait qu'elle savait qu'elle mentait, puis elle essayait de faire arranger ça avec la réalité, mais ça fonctionnait juste pas, à patiner. Bref, moi, je pense que, anyway, c'est un détail. Après ça, elle l'a tué puis violé. Genre, c'est pas grave si c'est toi qui l'as tiré ou non, en voulant dire genre...
Vous êtes les deux dans le plan,
exact,
depuis le début.
Depuis le début.
Vous êtes fait des codes, des règlements, genre...
Après ça, que tu t'achantes sur des détails de même,
c'est
là,
ça.
Pour te dire « Mais c'est pas moi qui l'ai attiré! » Genre, voyons.
Non, c'est ça, c'est du niaisage.
Ouais, comme j'ai écrit, dans tous les cas, ils ont réussi ensemble à embarquer le pauvre Keith Bennett dans leur station wagon et ils ont conduit jusqu'aux Landes. Encore une fois, Myra dit qu'elle a débarqué Ian et Keith et qu'elle a attendu environ 40 minutes, qu'elle n'a rien vu ni entendu, et que quand Ian est revenu, il était sale et il avait juste un soulier dans ses mains. Yeah, right. Ce qui est plutôt arrivé, probablement, c'est ça. Les trois ont marché dans les Landes à la recherche du gant perdu, sur une distance d'environ 3 miles. Ils ont marché quand même un petit peu. Myra tenait une pelle et un fusil dans les mains. Imagine le petit Keith, il est juste genre, pour trouver un gant, c'est beaucoup d'équipement, là.
Ben non, c'est sûr qu'il paniquait, là.
Mm-hmm. Oui, il est nerveux, il trouve la situation extrêmement louche. Il a peur d'arriver trop tard chez sa grand-mère, il voit le soleil se coucher. Il manifeste son inquiétude et Myra fait juste lui dire « Oui, oui, là, on rentre bientôt, inquiète-toi pas. » Myra va commenter plus tard « Pour Pauline, John et Keith, les voir marcher dans les Landes derrière Ian, c'était comme voir des petits agneaux marcher vers l'abattoir. » Après ça, genre « Mais j'ai rien fait!
Mm-hmm. »
Quand Ian a jugé que c'était le bon moment, il a refait son signe de sourcil dégueu et Myra a agrippé Keith pour le tenir en place, tandis que Ian a commencé à l'agresser sexuellement. Keith Bennett, qui avait à peine 12 ans, est finalement mort étranglé des mains de Ian, aidé par Myra. Le couple a enterré le petit dans les Landes et ils ont placé une grosse roche pour marquer l'emplacement de où il était. Ils se débarrassent encore une fois de toutes les preuves, de tout leur équipement. Chaque fois, ils enterrent les pelles et les pellicules plastiques dans les Landes et en achètent de nouvelles, brûlent leurs vêtements, nettoient le véhicule, ainsi de suite. Selon les dires de Ian, le meurtre de Keith a été le premier où il a pris une photo durant l'acte. Il dit qu'il l'a fait développer chez Myra dans une chambre noire faite maison, mais il a détruit la photo parce qu'elle était floue. Myra dit qu'elle n'a jamais vu cette photo, mais Ian dit qu'il lui a montré. Le lendemain matin, quand la grand-mère a ramené 5 enfants au lieu de 6 chez Winnie et Jimmy, la panique a vite envahi la maison des Kilbride, des Bennett. « Où est Keith? » La grand-mère dit « Ah, il n'est jamais rentré, je pensais qu'il était resté chez vous finalement. Hey. » Elle n'avait pas de téléphone, fait qu'elle n'a comme pas pu vérifier.
Oh mon Dieu!
Le cœur dans les talons, Winnie a tout de suite appelé la police parce que là, toute la nuit est passée. Mm-hmm. Et sa grand-mère veut toujours se sentir coupable.
Ben, c'est sûr. Oh my God, petite.
Juste un manque de communication.
Ça n'a pas de bon sens, là.
Mais faut se dire que ça n'aurait rien changé si on s'en était rendu compte plus tôt, là. C'était déjà trop tard, c'est sûr, là, mais... Encore une fois, les médias sautent sur cette histoire de disparition. Toute la ville en parle. La famille fait du porte-à-porte, on organise des battues, on utilise des chiens pisteurs, mais rien. Winnie, qui était 7 mois enceinte, a eu un accouchement prématuré en raison du stress, mais au moins, son bébé s'en est sorti en bonne santé. Et jusqu'à ce jour, le corps de Keith est le seul qui n'a jamais été retrouvé. Ian et Myra, qui ont avoué bien des affaires, n'ont jamais, jamais dit où ils ont enterré son corps. Jusqu'à sa mort, Winnie Johnson, la mère de Keith, a cherché son fils sans relâche dans les Landes. Jusqu'en 2012, à 78 ans, elle a espéré retrouver son fils. Juste avant de le rejoindre au ciel, elle a dit « J'ai besoin que mon Keith soit sorti de ces froides et lugubres Landes qui me regardent sans cesse de haut et qui me hantent partout dans Manchester. » Je vais revenir dans la partie 2 de toutes les recherches, des aveux, de comment ils se font attraper, ces deux beaux os-là.
Oui.
Je sais pas s'ils veulent pas avouer où ils ont enterré son corps ou s'ils ont juste oublié, là.
Oui, c'est ça.
Mais c'est le seul qui vont jamais dire où ils l'ont mis. Mais pourquoi ils vont dire pour les autres, là?
Mais c'est ça. Il y en a, tu l'as déjà dit, il y en a eu 5 victimes. Ouais. Pourquoi une... pas le dire, mais toutes les autres, oui, c'est bizarre.
Ouais, c'est vraiment bizarre.
Comme s'ils avaient oublié, ils le trouvaient plus. Genre,
puis ils veulent pas l'avouer qu'ils ont oublié, mais en même temps, ils ont pas l'air du genre d'avoir oublié.
Ben non, c'est bizarre.
C'est frustrant. On dirait que c'est peut-être juste un dernier fuck you à la police, de genre, on va s'en garder un pour nous, genre.
Marc.
Là, on commence à faire des liens entre la disparition de John et celle de Keith. Deux petits garçons de 12 ans dans des quartiers rapprochés disparaissent sans laisser de traces à quelques mois d'écart. Winnie et Shayla, la mère de John Kilbride, se rencontrent et parlent aux médias. Elles se soutiennent entre elles dans cette tragédie, puis c'est vraiment beau et touchant malgré la tristesse de la situation. On commence à parler de peut-être un tueur en série. Ça va prendre beaucoup plus de temps pour relier Pauline à tout ça, étant donné qu'elle a un profil différent, ça s'est passé l'année d'avant et tout.
Mm-hmm.
Mais au moins, on commence déjà à parler de ces deux cas-là ensemble. Et je rappelle encore une fois, Myra, à ce stade-ci, elle a 22 ans et Ian, 26.
Ça n'a pas de sens.
Myra habite encore chez sa grand-maman et Ian chez sa mère. Pour te dire comment son calisme en gêne, là, ils font ça sous le nez. De leur tuteur Lego, là.
Ben, c'est comme Jeffrey Dahmer, là, qui habitait chez sa grand-mère.
Je pense que dans partie 2, je fais une mini-comparaison avec lui.
Mm-hmm.
Mais tu regardes une photo de Myra, là, elle a l'air d'avoir 45 ans. Genre...
C'est-tu vrai?
Être une meurtrière d'enfant, là, ça te donne un coup de vieux, parce que, calisse, qu'elle a pas l'air d'avoir 22.
J'ai hâte de voir une photo.
C'est pas beau de suite. Mais aussi, il faut dire qu'ensemble, ils buvaient au moins une bouteille de vin par jour et fumaient comme une cheminée, là. Fait que ça l'aide pas à avoir l'air jeune.
Ouais.
Mais ils font pas leur âge. C'est terrifiant.
Là.
Après 3 meurtres horribles, le couple sadique de Myra Hindley et Ian Brady est loin d'être rassasié. Leur soif de violence persiste. Ils veulent continuer et ils vont continuer. Ils vont faire 2 autres victimes, mais c'est ici que je vous laisse pour la partie 1. Nos chers cornets Patreon auront pour leur part déjà accès à la partie 2 au moment où on se parle, mais sinon, voilà pour l'instant.
Oh my God! Je ne pourrais pas être un cornet régulier en ce moment. Quelle histoire de merde!
C'est épouvantable.
Genre, c'est dégueulasse. C'est j'ai quasiment pas parlé tout le long. Je suis juste, genre, outrée. Je sais pas comment le décrire.
Mm-hmm. C'est fâchant, puis c'est triste parce qu'on a tellement accès au point de vue des familles aussi. On voit toutes les répercussions que ces crimes-là ont faites, là.
Oui.
Puis on a aussi accès à la violence, là. Comme Yann, il n'a pas eu peur de dire ce qu'il a fait à ses enfants-là. Fait qu'on sait quasiment tout, là.
C'est ça, il y a beaucoup de détails. Mm-hmm. On s'attache aussi comme à l'enfant parce que tu as full de détails sur leur vie. Fait qu'en tout cas, c'était vraiment crève-cœur, là.
Mm-hmm.
Ça va continuer de l'être dans le prochain épisode, là.
Ah mais... oh, oui. Ça se calme pas du tout.
Genre de savoir ce qui s'est passé avec eux autres.
Mais voilà, merci d'être là. J'espère que c'est un rough retour de vacances.
Ouais, c'est ça. On est embarqué dans le bain assez vite. J'espère que vous étiez prêts, que vous aviez hâte à ça. Parce que...
Mais drôle de choix, là, parce que moi, pendant mes vacances, j'avais ça dans la tête. Là. J'ai écrit ça pendant mes vacances, on m'a reposé. J'ai pas pu faire, je sais pas, là, un
ouais,
truc
c'est
de...
ça.
De survivant ou une maison hantée, genre de quoi de plus léger, non.
Ouais.
Fallait que je raconte mon pire cas à date, je pense.
Ben écoute. C'est ça, c'est la vie.
Mais voilà, merci d'être parmi nous, d'avoir été patient pendant nos vacances. Bienvenue à tous nos nouveaux auditeurs. Là, on a comme eu un boom d'abonnés. Là. C'est vraiment malade.
Ouais,
je vous rappelle, on est au Festipod le 4 octobre. Je pense qu'on va passer en fin de journée, mais on va reconfirmer le tout. On va faire un épisode live. Fait que notre tout premier, c'est full spécial. On espère pouvoir vous rencontrer. Il va probablement avoir de la merch à vendre aussi sur place. Ça pourrait être vraiment cool.
Yes.
Oui, et là, les cloches de l'église sonnent. Fait qu'on vous laisse là-dessus. Il est midi.
Oui. Écrivez-nous si vous comptez y aller au Festipod. Oui. Ça serait malade. Puis sinon, ben écoute, on vous rejase ça la semaine prochaine pour les cornets réguliers.
Yes.
Merci, Ju. J'ai hâte d'entendre la suite.
Ben pour toi, c'est tout de suite, là.
Oui, c'est ça.
Et merci d'être là, on vous aime full.
Oui, gros bisous.
Bye!
Bye!